France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sur leur 31 toute la semaine. Le département 31 est à l'honneur en effet. C'est en Haute-Garonne, à Montesquieu-Volvestre, que s'est installé le jeu des 1000 euros. On retrouve Nicolas Stoufflet dans un petit quart d'heure pour le tant attendu spécial jeune du mercredi. Et d'ici là, des initiatives, des solutions, de l'énergie citoyenne en Haute-Garonne, avec d'abord une association toulousaine qui invite les familles des quartiers populaires à changer leurs habitudes du quotidien dans trois directions. L'environnement, la santé et le budget. Ensuite, je passe un coup de fil à une boulangère qui milite pour le temps long, laisser le temps de fermenter, laisser au pain le temps de fermenter dans la durée pour qu'il soit de meilleure qualité, valoriser les blés anciens aussi. Sa boulangerie est installée à Saint-Bertrand-de-Comminges, pas très loin de Luchon. Le fournil Résistance, oui, le pain aussi est politique. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Les bonnes habitudes sont plus faciles à installer sur la durée si on s'y prend à plusieurs, et notamment en famille. C'est l'idée de ces défis famille proposés par l'association Ferreco, qui est à Toulouse. Bonjour Cédric Le Fur.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Ferreco. C'est la Fondation de France qui nous a signalé ces défis famille, qu'elle soutient financièrement d'ailleurs. Quels défis proposez-vous très concrètement aux familles toulousaines qui participent à ces défis ?
Alors, on intervient en fait dans des quartiers prioritaires sur Toulouse, donc quatre quartiers prioritaires. Et les défis familles se déroulent en fait lors d'une année scolaire. On a une première phase de mobilisation où on va aller vers les familles en faisant des stands en bas d'immeubles, lors des marchés ou avec des partenaires dans les territoires concernés. Et ensuite, donc les familles vont s'inscrire à un parcours qui va aller à peu près du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Il y a 11 thématiques d'ateliers et pour donner quelques exemples, donc on va avoir des exemples autour de l'alimentation, que ce soit l'alimentation durable ou le gaspillage alimentaire, mais il va y avoir également autour de l'entretien du foyer, que ce soit les produits qu'on utilise ou les ustensiles, également autour des cosmétiques ou de la salle de bain. Et puis on fait aussi avec des partenaires locaux et experts dans leur domaine, comme le compostage, le jardinage ou encore la réduction des déchets.
C'est un projet qui a été inspiré, je crois, par une initiative similaire à Roubaix.
Oui, tout à fait. Roubaix zéro déchet, Roubaix qui a cette particularité d'avoir aussi un milieu social avec des indicateurs sociaux difficiles en fait. Et on a été très touchés justement par ce qui s'est passé depuis 2015. Ils ont lancé un défi famille. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a été touchés par des témoignages de gens qui se sont vraiment appropriés la chose, qui ont mis en place des changements de pratique. Et l'angle de vue, c'est vraiment cette prise en compte des milieux populaires dans l'écologie.
Vous diriez, Cédric Le Fur, que les milieux populaires se sentent exclus de la transition écologique ?
Alors, ils se disent pas forcément exclus. Je pense que tout simplement, ce que l'on rencontre, ce sont des gens qui ne se sentent pas dedans. C'est-à-dire que toute l'image qui est ramenée en fait autour du modèle en fait de l'écolo ne les rend pas légitimes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir des gens qui font énormément de choses au quotidien, qui subissent davantage les problèmes environnementaux, mais par contre qui ne se disent pas ou qui ne se réclament pas de l'écologie, tout simplement parce que le modèle qui leur est présenté n'est pas tout à fait un modèle de quelqu'un d'un milieu populaire. C'est plutôt quelqu'un qui est d'un milieu aisé, qui pourrait s'acheter une voiture électrique ou qui pourrait s'acheter du bio, pour rester dans les caricatures du fait qu'on aurait besoin d'argent pour être écolo, alors qu'en fait, pas du tout. Et tout ce qu'on peut voir au quotidien, c'est que oui, ils se sentent quelque part un peu exclus par rapport à ça, en tout cas par rapport au modèle qui est donné dans la société.
Alors vous avez 70 familles de l'agglomération toulousaine qui ont participé cette année. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter ?
Alors il y a pas mal de souvenirs marquants. Je me souviens d'une des éditions, donc il y a deux éditions, une dame marocaine d'origine et qui avait suivi en fait un des ateliers, notamment sur les produits d'entretien de produits ménagers quoi. Et donc du coup on avait fabriqué une lessive pour donner juste un exemple de ce qu'il était possible avant de découvrir plein d'autres produits. Et en fait elle avait été tellement contente qu'elle s'en était faite l'écho. Voilà, on s'appelle aussi Ferreco pour ça, et elle avait fait une petite vidéo pour ses sœurs qui étaient encore en Algérie, et elle avait convié en fait sa sœur qui est en France pour faire un petit atelier chez elle et lui montrer justement comment faire. Donc ça, c'est des petites anecdotes qu'on aime bien parce que ça porte vraiment les couleurs du projet de rendre aussi les gens acteurs et fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Mais du coup, ça redore un peu vraiment cette image milieu populaire écologique qui est assez pratico-pratique et pas forcément dans le modèle ambiant.
Voilà, l'enjeu important, c'est la protection de la planète. Mais est-ce que vous diriez aussi que la santé, c'est une bonne porte d'entrée sur ces sujets-là ?
Eh bien, c'est même la première, en fait. On interroge souvent les motivations qui font que les gens viennent en fait à ces ateliers, restent et puis rentrent par une porte et puis viennent découvrir d'autres ateliers. Et on interroge souvent entre faire des économies pour l'écologie ou au contraire pour sa santé ou la santé de ses proches. Et les gens nous répondent souvent que c'est la santé en un, en première notion, avec derrière l'écologie. Et enfin, la cerise sur le gâteau, en fait, c'est de continuer à faire des économies avec des gens voilà, qui gagnent pas beaucoup. Donc la santé est vraiment un angle d'attaque très important et que l'on peut trouver dans tous les ateliers comme fil rouge, que ce soit l'alimentation, les produits d'entretien avec tous les produits chimiques qu'il peut y avoir, ou encore la cosmétique et même le jardinage et le bien-manger.
Alors bien sûr, il y a l'éternel débat des petits gestes individuels qui ne peuvent pas grand-chose face à un mouvement collectif. Cédric Le Fur, comment vous vous inscrivez, vous, chez Ferreco, dans cette dynamique-là, le collectif contre l'individuel ?
C'est vrai que les gestes individuels et l'accompagnement individuel des familles que l'on peut avoir, elle est dans la philosophie suivante, c'est-à-dire qu'on va essayer de considérer les individus dans les collectifs. Et donc, du coup, on prend soin de créer du lien avec les individus, avec les familles, pour aussi les mettre dans un collectif d'habitants. Notre deuxième métier, c'est de faire aussi de la facilitation, que ce soit de faciliter des projets collectifs dans des structures ou sur les territoires avec les habitants. Et on s'est rendu compte que, justement, le projet avait fait écho avec, par exemple, Toulouse Métropole, qui a lancé un défi famille à hauteur de la métropole. On est en groupement avec une autre association qui s'appelle Zero Waste Toulouse. Donc là, on déploie ça sur 5 autres territoires avec plus de 100 familles que l'on accompagne, tout public confondu. Et là, on a voilà une petite fierté, et ça fait chaud au cœur, c'est que en accompagnant justement ces gens-là, on a eu des petits autour de nous avec des projets collectifs qui se montent. Et dans le cadre de ces défis, certaines familles ont même monté leur propre association et puis se sont devenus des collègues maintenant. Donc ça, c'est vraiment très très important pour nous de partir certes de l'individu, mais d'aller justement à des choses qui ont plus d'impact avec ces projets collectifs qui se montent.
Voilà, les défis famille, un projet porté par l'association Ferreco à Toulouse. Merci beaucoup Cédric Le Fur.
Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
J'ai reçu un mail d'une néo-boulangère tellement enthousiaste qu'il était impossible de ne pas lui passer un coup de fil. Bonjour Tulipe Centaine.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets de campagne, Tulipe. Vous êtes à Saint-Bertrand-de-Comminges, au fin fond des Pyrénées, tout en haut d'un village magnifique. C'est ce que vous écrivez dans votre message. Et vous ajoutez, on ouvre un jour sur deux pour avoir une vraie fermentation et on fait des trucs trop beaux et trop géniaux. Le Fournil Résistance, c'est le nom de votre boulangerie. Contre quoi résistez-vous, Tulipe ?
Alors, on résiste au temps. On résiste aussi à une certaine agriculture. On fait attention à ce que les variétés que l'on a de farine, de blé dur, de blé ancien, n'aient pas de pesticides, pas d'intrants. On résiste aussi à, on va dire, au lointain. Tout est local, si on peut dire. Et on n'est aussi que des femmes. Donc on résiste un peu aux a priori.
Il n'y a que des femmes dans l'équipe. Vous êtes nombreuses ?
On est 5.
Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette équipe féminine ?
Pour moi, c'était très important de mettre en avant une certaine bienveillance dans un monde qui était peut-être un peu compliqué dans ce monde de la boulangerie. Et c'est d'accepter aussi tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin de niveau quand on arrive dans ma boulangerie. Cette boulangerie, elle accueille des personnes qui peuvent avoir des handicaps, qui peuvent avoir un parcours différent, un peu un pas de côté. Et le projet, c'est vraiment que chaque personne vienne, découvre, puisse avoir confiance en elle. Car c'est une boulangerie qui travaille à la main, donc on prend le temps de pétrir, on prend le temps aussi d'expliquer ce que l'on fait, car on a des horaires décalés, et donc du coup, c'est pas facile aussi à comprendre, mais c'est un lieu aussi où on peut avoir confiance en soi, parce qu'on se dépasse tous les jours pour faire un pain merveilleux et très très bon.
D'ailleurs, vos pains ont des noms de femmes célèbres, je crois. Quelques exemples ?
Alors, il y a Louise pour Louise Michel, il y a Gisèle pour Gisèle Halimi, évidemment. Agnodis, qui est une femme qui s'est travestie 5 siècles avant Jésus-Christ pour devenir médecin. Et je trouvais ça fou comme histoire. Et donc, du coup, on lui en rend hommage aussi. Et Lozen, une femme qui s'est battue, indienne, qui s'est battue pour ses droits. On a Olympe, pour Olympe de Gouges, c'est notre pain de mie. Et on a Irena, qui est une femme incroyable, homosexuelle, juive dans le ghetto de Varsovie, qui s'est battue pour ses droits aussi. Une femme incroyable.
Il y a un seul pain qui porte un prénom de garçon, je crois.
Et c'est Petit Jules, parce que c'est le prénom de mon fils.
Voilà, vous trichez là, évidemment.
Exactement.
Alors, vous valorisez des blés anciens, vous travaillez au four à bois, vous êtes ouvert un jour sur deux uniquement. Il y a toute une philosophie derrière ce fournil résistance.
Oui, il y a une philosophie vraiment de respecter la terre, respecter... le savoir-être et le savoir-faire. Et il y a ce travail de fermentation qui est très important pour nous parce que le gluten n'est pas mauvais, il faut juste le fermenter. C'est vraiment... après 25 heures de fermentation, il n'y a plus de traces de gluten. Il y a des pains qui sont nourriciers avec très peu de sucre rapide, des sucres lents. Et c'est vraiment très important pour nous de savoir que la personne qui va manger notre pain n'aura pas de problème de bidon, n'aura pas de problème de sucre ou de transit à cause de pains qui sont hybridés et qui ont besoin d'aller vite, en fait. Nous, on n'a pas envie de ça.
Le fournil Résistance propose aussi des ateliers pour apprendre aux gens à faire du pain. C'est pas très bon pour le commerce, hein, ça.
Oui. Mais c'est pas du tout. Si, c'est très bon pour le commerce. Si, je vous assure. Parce que plus les gens viendront faire du pain chez nous, plus les gens comprendront cette démarche, plus peut-être ils s'intéresseront à cette façon de faire ce pas de côté, cette autre agriculture responsable du vivant et très enclin à aussi respecter l'humain. Ce sont des variétés que l'on utilise qui sont pas forcément très connues et au travers des stages, on fait découvrir le corazon, le petit épeautre, le barbu du roussillon, la pétanielle, la touzelle. Toutes ces variétés-là sont des variétés qui sont très très anciennes et qui ont très peu de gluten, pas hybridées. Et du coup, c'est des pains qui sont faciles à faire aussi et à refaire à la maison.
Vous êtes néo-boulangère, je le disais, Tulipe. Auparavant, vous étiez designer d'objets. Vous avez travaillé à Paris pour des marques de luxe, notamment. C'est pas la moitié d'une reconversion professionnelle. Quel a été le déclencheur ?
Il y a eu des moments un peu difficiles à Paris. Il y a eu des attentats. Il y a eu ce moment où c'était assez dur de voir le monde se diviser et j'avais l'impression de faire des choses inutiles dans mon coin magnifique. Et je me disais que j'étais pas bonne en politique, mais par contre, je voulais m'engager sur quelque chose de sincère. Du coup, j'ai commencé à faire du pain. Je me suis dit que ça, c'était réellement un moment où on pouvait partager. On dit copain. On dit vraiment ces mots qui sont vraiment liés au partage. Ça a été le point de bascule pour essayer de, un peu à ma manière, d'unir les gens.
Oui, les attentats de 2015 donc. Hein.
Oui, oui.
Un copain, c'est celui avec lequel on partage le pain.
Oui, exactement.
Vous ne regrettez rien, j'imagine, aujourd'hui ?
Non, vraiment pas. Et je pense mes pains en les dessinant. Je continue à dessiner et à faire des collaborations avec des gens super. J'ai l'impression, bien sûr, d'avoir changé de métier, mais je suis toujours la même et je fais toujours autant de dessins et la création reste identique.
Vous dites que vous dessinez vos pains. C'est une approche un peu designer, finalement.
Oui, tout à fait. Les formes, les couleurs aussi, et puis les ingrédients que je mets aux noix, au miel. C'est important pour moi. C'est la suite logique de mon histoire, de mon chemin.
Et ça ressemble toujours au dessin, à la fin ?
Souvent. Surtout les grignes que je fais.
Les quoi ?
Les grignes. Ah, c'est les petits dessins que l'on fait sur les pains, qui est la signature de la boulangère, ou du boulanger, bien sûr. On appelle ça une grigne.
Et grignoter vient de la grigne.
Exactement.
Au bout de combien de temps est-ce que vous considérerez que vous ne serez plus une néo-boulangère, mais une boulangère tout court ?
Je ne sais pas. On dit que le meilleur pain est celui de demain. Alors, on verra. Je serai peut-être pendant longtemps néo-boulangère.
Le fournil Résistance, c'est donc à Saint-Bertrand-de-Comminges, en Haute-Garonne. Un grand merci, Tulipe Santaine.
Merci beaucoup.
Bon courage, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et sachez, chers auditeurs et auditrices, qu'après la Haute-Garonne, les carnets s'intéresseront aux Hautes-Pyrénées, aux Bouches-du-Rhône et aux Var. Vos messages sont donc les bienvenus sur le site de l'émission pour signaler des initiatives réjouissantes et des gens géniaux dans ces départements. Les Hautes-Pyrénées, les Bouches-du-Rhône et le Var, autrement dit du côté de Tarbes, Marseille et Toulon.